Alors, dans Matthieu 12, en fait, c'est un assez grand chapitre où il y a plusieurs séquences. On est sorti du début de Matthieu où là, c'était plus des récits, des événements et des partages avec les disciples. Alors que là, on rentre dans des séquences où les pharisiens vont commencer à monter, enfin, continuent de monter au créneau, accusent Jésus, veulent le déstabiliser, disons les mots, le tuer, l'éliminer. Il devient de plus en plus gênant, bien sûr. Plus Jésus se manifeste, plus il devient gênant. Et déjà là, ben, ça pourrait nous parler, parce qu'il y a quelque chose en moi qui me gêne quand Jésus se manifeste, et il y a mon vieil homme qui résiste. Et peut-être on fera des rapports entre ben, justement la réaction des Juifs qui se manifestent contre l'avancée du royaume, l'avancée de Jésus qui manifeste son royaume, et puis nous, qui quelquefois aussi, moi, qui réagis quand Dieu voudrait que son royaume grandisse dans ma propre vie. Alors, j'avais le choix entre survoler l'ensemble ou alors ne prendre qu'une séquence pour la développer de tout ce chapitre-là. J'ai coupé la poire en deux. J'ai pris un peu tout le chapitre sans trop le survoler. Et on s'arrêtera une fois qu'on sera saturé ou qu'on en aura marre. Alors, je vous propose de lire à chaque fois une séquence et puis de courtement partager quelques réflexions dessus. Et puis peut-être vous aurez des choses à ajouter ou à retrancher. Alors, le premier passage qui concerne Matthieu 12, c'est les versets 1 à 8, si vous voulez les lire. Matthieu 12, 1 à 8.
À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent: regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim? Lui et ses compagnons, il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Je ne sais pas si quelqu'un...
Oui, oui, c'est bien, tu as raison, quelqu'un d'autre peut...
Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour cela se rendre coupable d'aucune faute. Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat.
Merci. Donc voilà le contexte. Hein, on imagine les disciples qui suivent Jésus. Ils marchent dans un champ, ils arrachent des épis, ils les mangent. Alors que depuis tout gamin, on leur avait interdit de faire ça le sabbat. Ils le savaient qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Mais en suivant Jésus, il y a une certaine liberté qui se manifeste. Ils ne savent pas trop pourquoi. Ils le font, mais ils n'ont pas analysé la chose. Or, cette altercation avec les pharisiens va leur permettre d'aller plus loin et que des choses qu'ils faisaient plus ou moins naturellement en suivant Jésus, ils en prennent tout le sens, toute la conscience, cette liberté que Dieu donne. J'ai besoin de l'apprécier, d'en connaître l'origine. Je ne suis plus sous la loi. Alors la réaction est assez violente hein, des pharisiens et on s'imagine... que là, les disciples, ils se rangent derrière Jésus, et voilà, ils répondent. C'est vrai, la culpabilité revenait peut-être sur eux, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'on a... C'est vrai, je savais qu'il ne fallait pas faire ça. Il y a en nous, on est entraîné vers un penchant religieux, une tendance lourde, et légaliste. En fait, en moi, le juge se manifeste beaucoup plus vite que l'avocat, de manière générale. Je juge beaucoup plus vite que je ne défends. C'est une tendance lourde. Elle n'est pas seulement en moi, elle est en nous, elle est sur l'Église. Et si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous revoyez qu'il y a toujours cette constante de revenir à la loi, un système rigoureux, légaliste, tu fais pas, voilà, ça va de là à là, c'est clair, c'est carré, on aime ce qui est clair et carré. Or, Jésus est en train d'introduire la grâce. Et la grâce n'est pas tellement carrée. Si je peux l'exprimer de manière géométrique. Les disciples violent le sabbat. Et Jésus va dire, écoutez, devant ce reproche des pharisiens, il y a deux exemples dans l'Ancien Testament où on voit que, on pouvait violer le sabbat à certaines occasions. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des exceptions qui introduisent la grâce déjà dans l'Ancien Testament. C'est fabuleux. Et c'est là que Jésus entraîne son public, les pharisiens et les disciples. Les disciples, ils n'avaient jamais pensé à ça, je suis sûr. Aucun. Pierre, tout ça. Ils étaient, mais oui, c'est vrai quand même, les prêtres, les dimanches, les samedis plutôt, puisque c'était le samedi. Eh bien, ils tuent un agneau, ils tuent une brebis. Ils l'offrent en sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais jamais pensé. Et puis, il n'y avait pas que ça, il y avait tout un cérémoniel qu'on retrouve, si vous avez une Bible avec les notes, on retrouve ça dans Nombre, où il y a ces références-là, où on voit qu'effectivement, Dieu commande de violer le sabbat aux prêtres. Et puis, il y a aussi une autre exception que Jésus explique, mais on n'y revient pas plus loin. L'essentiel est de comprendre qu'il y a des exceptions. Et surtout, le verset 6, qui a devant eux plus grand. Il ne dit même pas quelqu'un. Vous voyez, on a souvent dit que la révélation de Jésus était progressive, d'accord? Et là, on voit qu'il progresse dans la révélation. Encore une fois, Jésus dévoile son ministère, avance dans son ministère, la réaction des pharisiens le montre bien, ça commence à les gratter, et il y a quelqu'un de plus grand que le temple. Il ne dit pas il y a quelqu'un de plus grand, il y a plus grand que le temple. Juste pour que ça suscite un questionnement dans leur tête. Il n'apporte pas la réponse, il suscite un questionnement. Et dans le partage de l'évangile, ça c'est drôlement important. Il faut que j'apprenne à susciter des questionnements à la place de vouloir apporter des réponses. Je connais les réponses, moi, et j'ai envie de les donner. Mais on s'aperçoit que dans le cheminement de Jésus, dans la révélation du Messie, mais aussi dans son cheminement dans d'autres moments avec les disciples, il les fait réfléchir, il suscite le questionnement. Il y a plus grand que le temple. Il y a la loi, c'est vrai, mais il y a l'esprit de la loi. Ce pourquoi et ce pour qui la loi a été donnée. Et là, il va dévoiler un autre aspect qui manifeste la grâce. En fait, ce que je veux, c'est la bonté. Je désire la bonté. Là, c'est directement l'intrusion. Je ne parle plus d'introduire, je parle d'intrusion. Parce que on s'aperçoit que la loi était dure, rigide, carrée, et il va falloir que Jésus amène la grâce. Dans cet endroit tellement sec où l'homme a abusé, a épaissi la loi, l'a rendue encore plus importante au point de dire « Je peux être justifié par la loi si je la respecte. » Totale erreur. Jamais on pourra. C'est la grâce qui nous donne le salut, jamais la loi. L'intrusion de la grâce. Et je veux la bonté ou je veux la miséricorde. Qui parle? Le juge ou l'avocat? C'est l'avocat. Un avocat qui s'offre lui-même reçoit la condamnation à ma place. Nous, on connaît la suite de l'histoire. On connaît la croix. Là, à l'époque, les personnes-là ne savaient pas où Jésus voulait aller. Les disciples, ils étaient bien loin d'imaginer tout ce qui allait arriver. Entraîné par un penchant religieux, une tendance lourde, c'est toujours d'actualité. Nous préférons toujours bien cadrer les choses. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul va reprendre ce sujet dans la lettre aux Colossiens. Colossiens 3, 13. On va essayer de voir là, parce que là, Jésus parle à des pharisiens et à ses disciples qui ne connaissent pas encore tout l'évangile, la mort de Christ, sa résurrection, et puis les enseignements qui vont suivre, dont celui qu'on va lire fait partie. Mais c'est le même filon, c'est devant les mêmes personnes têtues dans leur entêtement à vouloir une loi plutôt qu'à vivre de la grâce. Et je fais partie de ces têtus-là. Voilà ce que dit Paul aux Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison, il a raison, de se plaindre d'un autre, jugez-le. Pardonnez-vous réciproquement. Mais comment ? Tout comme Christ. Tout comme Christ. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Cette semaine encore, comme pour Valérie qui l'évoquait, il y a eu des batailles dans mon cœur. J'ai dû non seulement rechercher, mais poursuivre la paix. Ça, c'est un verset des psaumes, psaume 34, verset 14. Il est dit, recherche et poursuis la paix. C'est pas qu'elle court vite, la paix. C'est que moi, je traîne toujours derrière ou je prends un autre chemin. Et sans arrêt, je suis obligé de poursuivre la paix. Elle m'échappe. Je prie et après, je m'inquiète. C'est ça. C'est l'illustration même de la poursuite de la paix que tu nous as donnée là. Détourne-toi du mal, fais ce qui est bien, recherche la paix avec, c'est Semeur qui prend cette traduction-là, ténacité. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Vous savez, comme c'est, moi j'aime bien l'image du chien qui a mordu quelque chose et puis qui ne veut pas lâcher. Vous pouvez toujours tirer, vous le baladez, s'il n'est pas trop lourd, sinon c'est lui qui vous balade, et bien il ne lâchera pas l'affaire. C'est comme ça qu'on doit chercher la paix dans notre semaine. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Là, ce matin, je déverse mes paroles dans vos oreilles. C'est qu'une partie. Paul n'a pas commencé par la partie là. Paul, il a commencé par des faits très pratiques, de mise en pratique. Il a parlé de ces moments où l'autre m'accuse, il a tort et j'ai raison. C'est fou ce que ça peut provoquer en moi. Et la paix, là, il a mis lieu. Poursuivre la paix. Et c'est seulement après qu'il va aborder la deuxième partie de la richesse de la parole de Dieu. Instruisez-vous, avertissez-vous. C'est ce que j'essaye de faire ce matin. Mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est la première partie. C'est la mise en pratique. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la loi, l'inspiration de la grâce. À chaque fois que je rentre, depuis qu'il y a ce verset-là, je me dis que mon culte, je dois tenir compte de cette réalité-là. C'est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais ce matin, je l'ai partagé à Fred d'une manière un peu humoristique, parce que Fred n'était pas encore, n'avait pas toutes les infos pour le culte, et ça aurait dû quand même, c'est vrai, ça coule de source. Et puis, est-ce que ça allait être doux pour lui d'habiter avec moi? Pa. C'est facile de l'écrire, oui. De le chanter. C'est pour ça que j'insiste. Et on doit insister là-dessus. C'est la mise en pratique. Il est beau ce verset, sur un beau tableau noir, sur notre beau mur.
Avec des belles lettres.
Des belles lettres. Mais ce n'est pas dans toute sa richesse que la parole s'exprime là. Elle va s'exprimer dans toute sa richesse là ce matin, puis dans la suite. Cet après-midi aussi. On peut lire. Allons-y, Matthieu, 9, 12, 9 à 14. Allez-y, verset 9 à 14.
Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus : est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme : tends ta main. Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir.
Ça se corse, hein ? Bon, on ne va pas s'étendre sur ce passage-là, vous avez compris la même chose, sauf que Jésus rapproche l'exception de la vie personnelle des hommes qu'il a autour de lui. C'est-à-dire, elle ne vient plus de la loi, elle vient de la vie pratique, concrète des gens. Et j'aime beaucoup, il faudrait qu'on s'arrête là-dessus quand on parle de la manière de partager l'évangile. J'aime beaucoup la progression que Jésus, avec laquelle Jésus procède. Et à un moment, il pose une chose, à un autre moment, il pose... Quand j'annonce l'évangile à une personne, je dois comprendre que cette journée-là, je vais pouvoir lui montrer ça. Un mois après, je vais peut-être lui montrer ça. Un an après, je vais peut-être lui montrer ça. Il y a une progression. Je ne déverse pas tout mon seau de l'évangile sur la personne. Il y a vraiment une progression. Et là, il s'emploie à montrer à ces pharisiens qu'eux-mêmes violent la loi. D'accord ? Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le sens. Alors il va guérir cet homme au travers duquel les pharisiens voulaient accuser Jésus. Et alors, c'est dur, hein, là, ça, c'est probablement dans l'évangile de Matthieu, en tout cas, je ne l'ai pas noté, mais certainement une première fois où ça y est, la mort est enclenchée. Ils ont envie de tuer Jésus. C'est violent, hein ? Ne vous étonnez pas non plus des réactions qu'il peut y avoir quand on partage l'évangile. Les gens peuvent nous en vouloir à mort. Heureusement, ils peuvent changer en coupe de route et on n'a pas à craindre, mais d'autres frères et sœurs dans d'autres pays, eux, ils ont à craindre. Ils sont menacés. Les églises sont détruites, des foyers brisés, etc. Et ils font partie du même corps, on doit s'en préoccuper aussi. Que Dieu leur donne la sagesse d'apprendre à répondre, eux aussi, à leurs persécuteurs. On peut lire 15 à 21.
Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom.
Voilà, donc pareil, j'aurais passé assez rapide. C'est hyper riche en ce qui concerne la justice, ce passage. Afin qu'on y revienne, la justice préoccupe Dieu et le chrétien devrait être préoccupé par la justice. Oui. Mais ouais, ce serait trop long de le développer. Mais je le mentionne, on y reviendra peut-être un peu certainement là-dessus. Il développe le fait que les prophéties le concernant doivent s'accomplir et que tous ces faits et gestes, y compris la guérison, sont là pour authentifier son ministère et pour qu'il puisse le manifester avec toujours, on l'a souvent abordé, mais c'est assez curieux, qu'il ne cesse de répondre, attention, taisez-vous, ne faites pas de la publicité du miraculeux. Et on sait pourquoi, on l'a déjà dit, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est pour ça que je ne le reprends pas dans ce passage-là. Voilà, je crois qu'on va pas aller plus loin dans le passage là. Il y aurait bien des choses, mais on va quand même passer dessus. Ok. Et puis on va lire versets 22 à 30. C'est un gros morceau.
Amena encore un homme qui était sous la prise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler du roi. La foule est stupéfaite, disait, cet homme n'est-il pas le fils de David? Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, si cet homme chasse des démons, c'est par le pouvoir de Belzébuth, lui, le chef des démons. Mais Jésus, connaissant leur pensée, leur dit, tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? Je vais jusqu'à 20 minutes, c'est ça?
Oui.
D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébuth, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison.
Merci. Alors voilà, c'est un gros morceau, il nous reste peu de temps, on va aller assez vite. La guérison d'un démoniaque, qui est de plus muet et aveugle, a vraiment provoqué un grand étonnement chez la foule. Ça, c'est le verset 22. Et ils sont devant cette problématique, c'est qu'un homme, on le connaît, et puis il est en train d'opérer des choses complètement incroyables, extraordinaires. Non seulement il guérit, mais il délivre les démons. On a du mal d'imaginer ça. Hein. Alors, les pharisiens voient d'un très mauvais œil l'intérêt de la foule sur Jésus. Ils ont envie, on l'a vu, on l'a quitté, dernier passage, ils avaient envie de le faire mourir. Et le voilà qui continue dans ses œuvres. Alors, ils vont aller plus loin dans l'accusation. Et ça, c'est le propre de l'endurcissement. En filigrane, il faut qu'on suive. On n'aura pas le temps, c'est dommage. Il faudra certainement qu'on coupe ce chapitre. J'aurais bien aimé le voir d'un seul passage parce qu'il y a un endurcissement progressif de la part de ces pharisiens qui montre que si je ne change pas au contact de Jésus, eh ben ça va très mal pour moi. En fait, si rien ne change, ça devient pire. S'il y a quelque chose à retenir de ce que je partage là, c'est ça. Si rien ne change dans ma vie, ça devient pire. Sur un fleuve, si je ne rame pas, je recule. La vie est un fleuve, pas tranquille. Alors, ils vont aller plus loin dans l'accusation, dans l'endurcissement, et ils vont l'accuser de faire ça au nom du prince des démons. Ils déplacent l'accusation, ils ne sont plus dans le contexte de la loi, le sabbat. Ils vont aller sur le terrain un peu plus mystérieux, obscur, imprécis, des divinités, du monde des démons, du monde occulte. Et là, c'est admirable. Au verset 25, comment Jésus évite la discussion, ne se laisse pas entraîner dans ce monde flou. Il dit, réfléchissez. Si, comme vous le dites, je suis du camp de Satan, et que je le combats en le chassant, en chassant les démons, faites face à votre contradiction. C'est pas logique, votre truc. Ça ne va pas aller pour ce royaume, car pour un royaume, le pire, c'est un conflit interne. Comment je vais pouvoir me protéger, faire face à l'extérieur, si à l'intérieur, je suis en conflit? Et il va le dire, c'est vrai pour une ville, c'est vrai pour une famille aussi. On ne sera jamais en mesure de lutter contre un ennemi externe s'il y a, dans notre propre camp, un ennemi. Alors, il y a des combats, on lutte, mais le Seigneur nous donne la victoire. Vous voyez des délivrances, des miracles. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je les accomplis, alors le royaume est venu jusqu'à vous. Je suis le Messie. C'est aussi simple que ça. Vous voyez comme il sort du terrain où les autres voulaient qu'il s'enlise pour placer des vérités claires et massives. Et à nouveau, il met devant l'évidence délivrance, miracle et tout ça. Ce n'est pas une fin en soi. Alors ouvrez les yeux, le royaume est venu jusqu'à vous. Voilà le véritable objectif, voilà ce que je dois voir. Le reste, c'est ce qui devrait vous permettre d'ouvrir les yeux. Dans ce combat que je suis venu livrer à cet homme fort, à Satan, vous voyez qui est le plus fort. C'est moi, dit Jésus. Vous voyez comment l'ennemi est, il le dit d'une autre manière, attaché. Et il va aller plus loin en disant que seulement après l'avoir attaché, il va piller sa maison. Sur la croix, Jésus a dépouillé l'ennemi, l'a dépossédé de tout. Il l'a vraiment pillé. Et là, il est en train de montrer comment il attache l'ennemi. S'il possédait, il ne pouvait rien. Parce que Jésus était en train d'attacher l'ennemi. Et il allait dépouiller. Alors, verset 30, choisissez votre camp. C'est avec moi ou contre moi. Il n'y a rien d'autre. Pas d'autre choix. Et si vous ne rassemblez pas avec moi, vous dispersez. Amen. 31 et 32, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne le sera pas pardonné. Car celui qui parle contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Il y a un point de non-retour. Dire du mal de moi, de Christ, m'accuser, qui dit, c'est une chose. Par contre, accuser le Saint-Esprit, c'est vous exposer à un point de non-retour. Il n'y a plus de pardon possible. C'est conséquence de l'endurcissement. Vous voyez, là, ils atteignent le bout du bout de l'endurcissement, quelque part. Voilà la démonstration. Et continuez seulement de nier. Et vous continuez non seulement de nier, mais de faire passer le Saint-Esprit pour un démon. Terrible. Confusion, opposition. Enfin, c'est le point de non-retour. C'est le comble de l'endurcissement. Je regarde le prochain passage qui irait de 33 à 37. Et puis la prochaine fois, on prendra le signe de Jonas. Oui, c'est peut-être bien de finir là. 33 à 37. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, quand on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipère. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Simplement, à mon avis, ayez au moins l'honnêteté de reconnaître mes œuvres, mes miracles. Ce sont des œuvres que jamais la terre n'a pu recevoir. Là, le Messie est en train d'agir sur cette terre, sur cette planète, le Fils de Dieu venu sur terre est en train d'annoncer l'Évangile, de répandre tout ça au travers aussi des guérisons et des miracles pour attirer l'attention sur ce qu'il est. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera plus jamais. Et Jésus est en train d'accomplir ça, et voilà des pharisiens qui se lèvent pour s'opposer à lui. Pour être fourbes, mentir, trouver des endroits pour essayer de coincer Jésus. C'est pour ça que Jésus... On s'aperçoit qu'aussi dans l'endurcissement, il y a Jésus monte le ton. Hein. Race de vipère. Ça vaudrait le coup de l'examiner, mais ça demanderait. Il s'approche du point de non-retour, donc effectivement, ils s'échappent de la grâce. Mais je pense qu'ils sont encore sous la grâce. Ce sont de bonnes œuvres. Si vous êtes incapable de dire que vous avez devant vous quelqu'un qui porte du bon fruit, il n'y a plus grand-chose à espérer. C'est que le mal est profond. Si vos paroles sont mensongères, c'est que le problème vient de votre cœur. Sans changer votre cœur, vous ne pourrez pas en sortir. Et c'est justement ce que je suis venu rendre possible. Un changement de cœur. Et là, on retombe sur l'introduction de Valérie. Elle témoigne que Dieu change les cœurs. Change la vie. Ah, beaucoup plus lentement qu'il le voudrait. Mais il le fait. Et c'est ça qu'on met en valeur dans nos cultes. Il le fait. Il le fera encore cette semaine. Changer mon sale caractère. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et mon cœur se remplit si vite de tout un tas de fatras de choses. J'ai besoin de vider mon cœur. Que Christ le lave, le purifie. Et puis le comble de son pardon, de son amour, de sa présence. Que je sois un débordant. Le chrétien devrait être un débordant. Et pas une éponge. J'ai besoin. Au jugement dernier, nous devrons rendre compte de nos paroles, même de nos paroles qui ne sont qu'inutiles. Alors nos mensonges. Vous imaginez le truc? D'après ta parole, tu es déclaré juste ou condamné. Romains 10, 8 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, il est mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ces paroles rejoignent ça. Il aurait fallu continuer pour ne pas faire cette interruption de je ne sais pas combien de temps, la prochaine fois qu'on ouvrira. Mais gardez en mémoire, peut-être vous aurez peut-être pris quelques notes, en tout cas on essayera de revenir un petit peu sur les versets qu'on vient de lire avant d'aborder la suite, parce que la suite a aussi des passages qui pourraient être un peu obscurs si on ne les éclaircit pas comme ça. Voilà, mais moi je m'arrête là.